Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour prouver votre amour à vos amis? Passer du temps avec eux? Leur donner des beaux cadeaux à Noël, peut-être? Les aider quand ils en ont besoin? Ou rire bien fort quand ils font des blagues nulles? Ou peut-être donner votre vie pour les sauver? Aujourd'hui, nous allons étudier un texte assez connu qui raconte l'histoire où Jésus lave les pieds de ses disciples. Mais c'est aussi un texte qui nous parle de l'amour que Jésus a pour ses amis. Je vous invite donc à trouver dans votre Bible Jean chapitre 13, versets 1 à 17, et écoutez bien ce qui se passe dans ce texte. Jean 13, versets 1 à 17. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds? Jésus lui répondit, Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Pierre lui dit, Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, Vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le maître et le seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce texte que nous venons de lire ce soir. Nous te remercions pour ta révélation qui nous conduit dans la sagesse, dans la vérité et dans l'amour. Nous te prions d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous apprenions quelle est ta volonté et pour que nous comprenions combien grande est ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Alors, il est probable que vous ayez un titre au début de ce chapitre, qui a été ajouté par les éditeurs, et qui dit quelque chose comme « Jésus lave les pieds de ses disciples ». Et je suis d'accord avec ces mots en tant que sous-titre, ok? Mais je veux vous suggérer que le thème principal de notre texte n'est pas le lavement, des pieds des disciples, mais l'amour extrême de Jésus. Le premier verset de ce texte nous résume l'idée principale. Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. On peut aussi traduire Jésus les aima à l'extrême. Et donc le lavement des pieds est un symbole qui nous parle de l'amour de Jésus pour ses disciples. En fait, l'amour de Jésus dans cet acte altruiste et humble est une préfiguration de la croix. Il y a trois choses importantes que nous apprenions par rapport à l'amour de Jésus à travers cet acte particulier. Premièrement, l'amour de Jésus est étonnant. Deuxièmement, l'amour de Jésus est nécessaire. Et troisièmement, l'amour de Jésus est suffisant. Premier point, alors. Jésus manifeste son amour d'une manière étonnante, tout à fait impensable. Le texte nous dit que Jésus est habillé comme un esclave et qu'il lave les pieds de ses disciples. Pour que vous compreniez ce qui se passe ici, il faut comprendre que dans la culture juive au premier siècle, un disciple n'aurait jamais touché les pieds d'un autre disciple. Parce qu'au niveau social, ils étaient à égalité. De plus, ce n'aurait pas été possible pour un juif de toucher les pieds d'un autre juif. Un pied, c'est quelque chose de sale et de moche. Le lavement des pieds était une tâche réservée aux serviteurs païens, okay, ou aux enfants. Quand Jésus, le maître, le chef, le prof de théologie, le Seigneur, s'habille comme un esclave et se met à laver les pieds de ses disciples, c'est-à-dire des gens qui lui sont inférieurs, il faut comprendre que cette situation est absolument impensable, choquante et même embarrassante pour les disciples. J'imagine que la seule raison pour laquelle les disciples ont laissé Jésus leur laver les pieds, c'est parce qu'ils étaient trop choqués pour réagir. Mais ce que Jean raconte est une image de l'amour extrême de Jésus. C'est un amour humble qui se met au service des autres et qui donne à ceux qui ne le méritent pas. Imaginez un jeune garçon qui est en train de jouer avec un ballon dans le jardin, quand soudainement il le lance par la fenêtre de sa maison. Catastrophe. De la vaisselle est cassée, des vases sont renversés, c'est un désastre, ok? Sa mère est en colère et elle dit « Assieds-toi et attends ton papa ». Alors, il attend le retour de son père. La peur au ventre. Il répète dans sa tête toutes les excuses qu'il va essayer de donner. Son père rentre alors du travail. La porte s'ouvre. La peur augmente. Mais le papa entre dans le salon avec un balai. Il range le désordre et il dit à son fils, « Moi aussi, j'ai été un enfant. » Quel pardon, n'est-ce pas? Quelle humilité, quel amour! Ça, c'est l'image qu'on a de Jésus dans Jean chapitre 13. Cet acte de Jésus si étonnant, si humble, si tendre et altruiste, nous prépare pour un autre acte de plus grande encore qui approche. En fait, cet acte préfigure la croix et pointe vers la croix. Et comme le lavement des pieds, la croix était quelque chose d'étonnant et d'embarrassant pour les disciples. Le roi éternel, le maître, le fils de Dieu a été exécuté comme un criminel. Il est mort humblement par altruisme à la place de ses disciples. Il a montré qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu avec un cœur rempli d'orgueil. C'est dans l'humilité que Jésus est mort comme un serviteur. De même, en lavant les pieds de ses disciples, Jésus a montré qu'il était prêt de donner sa vie pour eux. Et il répète ce point dans Jean chapitre 15, où il dit qu'il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le lavement des pieds est donc un acte d'amour extrême qui préfigure la croix. Et c'est un acte étonnant. Mais deuxièmement, nous allons voir que c'est un acte nécessaire. Dans les versets 6 à 8, nous découvrons ce petit échange entre Pierre et Jésus. Et nous voyons que Pierre a une objection tout à fait normale et logique. « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ? Pas possible. » Pierre a dit tout haut ce que tous les autres pensaient tout bas. Et Jésus répond en expliquant que bien que ce soit difficile à comprendre maintenant, bientôt ce sera clair. Le lavement des pieds par Jésus est une condition nécessaire pour avoir une relation avec Jésus. Pour être avec moi, dit Jésus, vous devez me laisser vous purifier. De la même façon que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il a lavé les gens qui lui appartiennent de tous leurs péchés à la croix. Si Jésus ne nous lave pas par son sang, nous n'avons pas de part avec lui. L'acte de son amour extrême est nécessaire pour notre salut. Selon Jésus, il n'y a pas d'autre option. Vous voyez? Imaginez que vous partiez en vacances cet été. Destination New York. De quoi avez-vous besoin pour monter dans l'avion? De bonnes chaussures pour vous promener à Times Square? De l'argent pour assister à une comédie musicale à Broadway? Ou pour acheter un t-shirt qui dit « I love New York very much » Je ne sais pas. Un parapluie juste au cas où il pleuvrait à Central Park? Un bon accent américain? Et quelques gros mots anglais pour pouvoir bien communiquer avec les New-Yorkais, les conducteurs de taxi. Peut-être qu'il vous faut une ou deux tenues de soirée pour manger au restaurant à Manhattan. Je ne sais pas. Oui, peut-être bien que toutes ces choses sont importantes pour faire un bon séjour à New York. Mais ces choses ne sont pas nécessaires. Vous voyez, pour monter dans l'avion, les seules choses dont vous avez vraiment besoin sont votre billet et votre passeport, n'est-ce pas? Trop souvent, nous ressemblons à Pierre. Nous avons des bonnes intentions, mais nous oublions ce qui est nécessaire. Nous aimons Jésus, nous suivons les principes moraux enseignés dans la Bible. Nous pensons que Jésus nous a donné un bon exemple, qu'il était un gars sympa. Mais avec tout ça, nous oublions l'Évangile. Trop souvent, nous pensons à tout sauf à notre passeport. Nous oublions que la croix est notre seul espoir pour avoir une relation avec Dieu. Ce que Jésus est en train de dire dans ces versets, c'est que son amour extrême qu'il a montré à notre égard en purifiant nos péchés à la croix, est une condition nécessaire pour notre salut. Il n'y a pas d'autre possibilité. L'amour extrême de Jésus est donc étonnant, il est nécessaire pour notre salut, mais troisièmement, il est aussi suffisant. On ne peut pas ajouter à la purification que Jésus a réalisée pour nous. On voit dans la suite de ce texte que Pierre comprend mieux maintenant que ce symbole représente une réalité importante. Et dans son zèle débordant, il dit « Vas-y Jésus, si cet acte est nécessaire, alors donne-moi un pain. » Mais Jésus répond « Attends Pierre, attends. Tu as déjà été appelé par la grâce de Dieu. Tu as déjà été purifié par le moyen de ta foi dans les promesses de Dieu. » Cet acte de lavement symbolise la purification du péché qui va se passer à la croix et qui est le fondement de ton salut. Il n'y a rien à ajouter en plus. Jésus est en train de dire que ce qu'il fait est suffisant. La croix est suffisante. Sa grâce est suffisante. Son amour est suffisant. Imaginez que vous soyez en voiture sur l'autoroute quand soudain, catastrophe, votre véhicule tombe en panne d'essence. Que faire? Je vais vous donner deux options, ok? Et c'est à vous de choisir. Donc, que faire pour régler ce problème d'un réservoir vide dans votre voiture? Première option, ajoute de l'essence. Ok, c'est tout. Ajoute de l'essence. Ou deuxième option, ajoute de l'essence, mais aussi, mets des pneus neufs, change le ventilateur, remplace l'alternateur, modifie le système d'échappement, refais l'allumage ainsi que l'embrayage et le freinage, change l'huile du moteur et de la boîte de vitesse, remplace le pare-brise et achète un nouveau lecteur CD avec des enceintes plus puissantes. Quel choix est le meilleur entre les deux? Ou plutôt, quel choix est suffisant? Si vous tombez en panne d'essence, la seule chose à faire, c'est de trouver de l'essence, n'est-ce pas? Ça suffit. Jésus est clair dans les versets 9 à 11 sur le fait que si Dieu nous rend pur, il n'y a rien à ajouter. La grâce de Dieu manifestée dans l'amour extrême de Jésus est suffisante pour notre salut. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir cette grâce et cet amour? Encore une fois, je vous donne deux options. La première, c'est la foi. C'est tout, la foi. Ou deuxième option, la foi plus des bonnes œuvres, plus quelques prières chaque jour, plus la Sainte Cène, plus le baptême, plus de l'eau sacrée, plus la burqa, plus de la méditation zen, juste au cas où. J'espère que vous avez choisi la première option. Il n'y a rien à ajouter à la croix de Jésus. Il y a quelques semaines, Alex a employé une phrase en anglais dans sa prédication, une phrase qui dit « Jesus plus anything spoils everything ». Jesus plus anything spoils everything. En français, si on ajoute quoi que ce soit à Jésus, ça gâche tout. Si nous croyons en Jésus et à ce qu'il a fait pour nous à la croix, nous sommes purifiés et nous sommes lavés. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Alors, nous avons appris dans ce texte que c'était l'amour extrême de Jésus qui l'a conduit à laver les pieds de ses disciples et qui l'a conduit, en fin de compte, à la croix. Mais qu'est-ce que Jésus attend de ses disciples dans ce texte? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Déjà, nous avons appris de ne pas être embarrassés par l'amour de Jésus, mais à accepter dans la foi cet acte d'amour étonnant, nécessaire et suffisant. Mais il y a plus. Regardez la fin de ce texte, les versets 12 à 17. Il y a une chose très importante que nous devons faire. Essentiellement, ce que Jésus dit à ses disciples, c'est ça. Faites comme moi. Faites comme moi. Imitez votre Seigneur, votre Maître. Si le Dieu de l'univers s'est montré prêt et disposé à servir des gens qui lui étaient inférieurs à tout point de vue, sommes-nous prêts et disposés à imiter cette posture et à nous mettre au service les uns des autres? Alors, pour terminer, comment imiter cet acte et comment ne pas imiter cet acte? Comment laver les pieds des autres aujourd'hui? Je commence par ce qu'on ne devrait pas faire. Je ne pense pas que le lavement des pieds soit un sacrement ou une ordonnance instituée par Jésus qu'on doit pratiquer régulièrement. Okay? Le seul texte en dehors de Jean 13 qui parle du lavement des pieds se trouve dans 1 Timothée 5 qui décrit cet acte simplement comme un bon geste. Okay? Pour Jésus, le lavement des pieds représente l'humilité et l'amour altruiste. Mais ce n'est pas un signe de l'Alliance. Ce n'est pas une ordonnance de l'Église. Donc, si vous avez envie de laver les pieds de quelqu'un dans l'Église, en tant qu'un geste symbolique, et que vous trouviez un participant plein de bonne volonté, allez-y, je ne vous en empêche pas. Ce n'est pas du tout un problème. Mais sachez bien que ce n'est pas un sacrement que nous allons faire chaque dimanche après la Sainte Cène, ok? Alors, maintenant je vous explique comment laver les pieds, entre guillemets, d'une manière un peu plus pratique, qui s'accorde plus avec ce que Jésus veut dire dans ce texte. Et c'est simplement ça. Aimer à l'extrême. Aimer à l'extrême. Le salut par la grâce ne supprime pas notre responsabilité morale en tant que chrétien. Nous sommes appelés à aimer à l'extrême, n'est-ce pas? Regardez le verset 17, par exemple. Aimer à l'extrême. Alors, quel est le plus grand commandement dans la Bible? Aimez votre Dieu et aimez votre prochain comme vous-même. Quelle est la voie par excellence dans 1 Corinthiens 12 et 13? Une vie caractérisée par l'amour. Quelle vertu est la plus grande entre la foi, l'espérance et l'amour? Encore une fois, c'est l'amour. Et l'amour se manifeste par des actes de service humble et altruiste. L'amour se manifeste quand nous nous soutenons les uns les autres dans l'Église. Je vous encourage à bien réfléchir aujourd'hui et cette semaine à des manières dont vous pourriez imiter Jésus au profit de vos frères et de vos sœurs en Christ. Jésus a mis en pratique son amour pour nous. Allez donc et faites comme le Christ, notre Seigneur, qui nous a aimés à l'extrême. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions car tu nous aimes jusqu'au bout. Tu nous aimes à l'extrême. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer cet amour, nous aussi, et à suivre ton exemple. Merci, Seigneur, pour ton amour qui s'est manifesté à la croix. Au nom de Jésus. Amen.